Heure temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce microphone. Dans moins de 5 minutes, le magazine de l'économie, ce sera avec Camille Grosdidier. Mais tout d'abord, un bulletin d'information. Attentat à la voiture piégée dans le centre du Nigeria. D'après les autorités, deux explosions ont frappé la ville de Jos cet après-midi, faisant des dizaines de morts. Le point, Timothée Donangmaï.
La première explosion est due à un camion piégé, la seconde à un minibus. C'est ce que rapporte l'armée, qui n'est pas encore en mesure de communiquer le bilan de ce double attentat. L'attaque s'est produite vers 14h temps universel dans un marché très fréquenté de Jos, la capitale de l'État du Plateau, région limite entre le sud chrétien et le nord majoritairement musulman. Ce dernier attentat intervient alors que le Parlement a approuvé la prolongation de l'état d'urgence pour une durée de 6 mois dans les états de Yobe, Adamawa et Borno, en proie aux attaques de Boko Haram. L'état d'urgence en vigueur depuis 1 an n'a pas permis de réduire les violences. Le mois dernier, les islamistes ont enlevé plus de 200 lycéennes et jusque-là, ces jeunes filles n'ont pas été retrouvées.
Dans le nord malien, un calme tendu règne à Kidal au lendemain de la libération des otages que détenaient les rebelles du MNA. Bamako a envoyé un renfort de quelques 1500 soldats après les affrontements qui ont fait au moins 36 morts samedi dernier. Des organisations de défense des droits de l'homme et l'expert de l'ONU pour le Mali ont réclamé aujourd'hui des enquêtes sur les assassinats commis à Kidal le 17 mai. Un responsable des rebelles Touareg du MNLA affirme que son mouvement n'a exécuté personne à Kidal. En République centrafricaine, la coordination des ex-Seleka annonce la fin de la guerre. Au cours d'une conférence de presse lundi à Bangui, les leaders de cette ex-coalition rebelle se disent favorables à la paix et à la réconciliation nationale. Le point, Idrissa Fall.
Le premier ministre André Ntsapayeke a tiré à boulet rouge hier sur la mise en place du nouvel état-major des ex-Seleka à Bambari. La réponse des anciens rebelles a suivi aussitôt. Abdoulaye Hissène, coordinateur politique provisoire du groupe, affirme, et je cite, « La guerre est finie, l'aventure est finie, les exactions contre le peuple centrafricain sont terminées. » Pour Moustapha Saboun, secrétaire général de la coordination, l'installation de leur état-major s'inscrit dans une dynamique de réconciliation.
Pourquoi diviser le pays? La République centrafricaine est une et indivisible. Il y a une chaîne de commandement qui a été mise en place pour restructurer les éléments de l'ancienne coalition Seleka. Il y a un processus de DDR qui est mis en place. Donc il faut regrouper les troupes. C'est une dynamique vers la réconciliation.
De son côté, la ministre de la Réconciliation, Antoinette Montaigne, dit avoir pris acte de l'engagement de l'aile politique des ex-Seleka.
Ce qui m'intéresse pour le compte de la transition et de la nation, c'est de voir comment ils seront efficaces pour convaincre l'état-major militaire puissamment armé qu'ils ont décrit eux-mêmes pour déposer les armes, accepter le containment, rentrer dans les mécanismes prévus par la communauté nationale internationale pour pacifier ce pays.
L'état-major des forces dites républicaines est à Bambari, dans le centre-est du pays.
Présidentielle en Guinée-Bissau, le candidat du PAIGC, le principal parti de José Mario Vaz a remporté le second tour de l'élection présidentielle avec 61,90% des voix. C'est en tout cas ce que révèle l'agence France-Presse qui s'appuie sur les résultats provisoires publiés ce mardi par la commission électorale.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Thaïlande, l'armée a décrété la loi martiale. Les militaires affirment avoir pris cette mesure spéciale pour sauvegarder la paix et l'ordre. Après des mois de manifestations parfois violentes, le chef d'état-major a réfuté l'assimilation de l'action des militaires à un coup d'état. Il a appelé à des négociations entre partis rivaux en insistant toutefois sur le fait que la loi martiale resterait en place jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli. Les États-Unis se disent très préoccupés et invitent l'armée thaïlandaise à honorer son engagement à faire de la loi martiale une action temporaire pour prévenir la violence et de ne surtout pas saper les institutions démocratiques. Les troubles continuent dans l'Est.
Washington, la Voix de l'Amérique, Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres tout d'abord. Abidjan accueille le premier forum africain sur le réseau électrique intelligent, le Smart Grid.
L'énergie est essentielle pour le développement économique et le progrès social de nos pays, a déclaré le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tunkara.
Notre correspondant en Côte d'Ivoire, Germaine Dri, nous en dira davantage. Selon un rapport du BIT sur la maternité et la paternité au travail, quelque 830 millions de femmes ne bénéficient toujours pas d'une protection adéquate.
On remarque que des 830 millions de travailleuses, 80% travaillent dans des pays d'Afrique et d'Asie. Donc c'est surtout un problème de pays à bas revenus.
On entendra Laura Adati, spécialiste de la protection de la maternité au BIT. Et une très lourde amende pour Crédit Suisse qui va débourser plus de 2,5 milliards de dollars après avoir plaidé coupable de complicité d'évasion fiscale, a annoncé lundi la justice américaine. L'Afrique pourrait transformer son économie et réaliser une véritable percée en matière de développement, à condition de mieux s'intégrer dans la production mondiale de biens et de services. C'est ce qu'affirme la dernière édition des perspectives économiques en Afrique, publiée à l'occasion des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement. Le point avec Michel Joseph.
Le rapport 2014, rédigé conjointement par la Banque africaine de développement, le Centre de développement de l'OCDE et le Programme des Nations unies pour le développement, PNUD, estime que l'Afrique est sur le point de connaître une solide croissance économique. En effet, la croissance du continent devrait s'accélérer à 4,8% en 2014 pour atteindre 5 à 6% en 2015, des niveaux jamais atteints depuis la crise économique mondiale de 2009. Il s'agira par ailleurs d'une croissance économique plus diversifiée, tirée par la demande intérieure. Les pays africains devraient considérer sur le moyen à long terme l'opportunité de contribuer aux chaînes de valeur mondiales comme une composante intégrale de leur stratégie pour une croissance robuste, durable et inclusive, recommande Ntuling Kubé, économiste en chef de la Banque africaine de développement. Le rapport préconise une participation plus efficace aux chaînes de valeur régionales et mondiales pour que le continent évite de s'enliser dans des activités à faible valeur ajoutée. Car si les exportations africaines à destination du reste du globe ont augmenté plus rapidement que celles des autres régions en 2012, elles sont restées dominées par les produits de première nécessité qui n'ont pesé que 3,5% dans les exportations mondiales de marchandises la même année.
Ici Washington, Camille Grodidier avec vous. Je vous accompagne pour cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie. Abidjan accueille le premier forum africain sur le réseau électrique intelligent, le Smart Grid. Notre correspondant en Côte d'Ivoire, Germaine Dri, nous en dit plus.
Ce forum qui regroupe plus de 200 experts, fournisseurs de solutions et managers venus des quatre coins du monde, a, selon Ferdinand Kakou, directeur général de la compagnie ivoirienne d'électricité, engagé des réflexions stratégiques au niveau continental sur les smart grids qui se présentent aujourd'hui comme une solution pour une Afrique émergente en matière de production, de distribution et de gestion électrique.
L'augmentation de la consommation d'électricité avec de nouveaux usages de consommation, le développement de la production intermittente et décentralisée d'électricité à partir d'énergies renouvelables, la réduction des émissions de CO2 pour respecter les engagements en matière d'environnement. Le développement d'un tel réseau d'électricité moderne est promu dans de nombreux pays dans le monde comme un moyen de traiter les questions d'indépendance énergétique et même de réchauffement climatique.
L'énergie est essentielle pour le développement économique et le progrès social de nos pays, a déclaré le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tunkara. Il a aussi indiqué que la question de l'approvisionnement durable en électricité demeure l'un des principaux défis à relever. Pour lui, le but de la rencontre est clair.
L'objectif général de ce forum, dénommé Africa Smart Grid Forum 2014, est de renforcer les capacités des experts et des managers africains dans le domaine des smart grids et permet l'élaboration d'une stratégie qui va conduire les pays africains à l'émergence.
Les participants sont unanimes et reconnaissent que les smart grids participeront à l'émergence de l'Afrique. Amissi Abou et Armand Agbo, tous professionnels de l'électricité.
Il faut investir, c'est vrai, mais sur le long terme, avec bien sûr une formation des ressources. Un, on a moins de défaillances. Deux, on alloue moins de ressources financières et de personnel à la réparation du réseau. Et trois, on peut se concentrer vraiment sur le développement du pays et des pays en général. Donc ça, c'est ça le smart grid, c'est une efficacité au niveau de la gestion du courant, chose que l'on n'a pas aujourd'hui. Et sans ça, l'Afrique ne peut pas avancer.
Tout pointe que tout le monde se dirige vers les smart grids. D'accord, ça permet un meilleur contrôle au niveau de nos réseaux, au niveau de la gouvernance, les économies à grande échelle. Donc c'est une très bonne chose que finalement il y ait un pays, dont ici la Côte d'Ivoire, qui a finalement décidé de se lancer et de montrer aux autres pays de la sous-région qu'on devait se lancer vers les smart grids.
Germain Dri, Abidjan, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique, Camille Grosdidier avec vous. Selon un rapport de l'Organisation internationale du travail sur la maternité et la paternité au travail, quelque 830 millions de femmes qui travaillent, soit près de 70% du total, continuent de ne pas bénéficier d'une protection adéquate. Il s'agit surtout de travailleuses de l'Afrique et de l'Asie, le plus souvent employées dans l'agriculture ou encore indépendantes, migrantes, domestiques, occasionnelles ou bien temporaires. Seulement 330 millions de femmes, soit 28% des travailleuses dans le monde, sont effectivement protégées. En cas d'accouchement, elles percevront des prestations en espèces. Pour plus de précisions, on écoute Laura Adati, spécialiste de la protection de la maternité à l'OIT.
On remarque que des 830 millions de travailleuses, 80% travaillent dans des pays d'Afrique et d'Asie. Donc c'est surtout un problème de pays à bas revenus. Même si on trouve aussi des cas où certaines catégories de travailleuses sont aussi exclues dans la législation nationale et dans la pratique aussi dans des pays riches. Mais on voit que, en ce qui concerne l'Afrique, il s'agit de l'absence de système de sécurité sociale efficace qui arrive à couvrir la plupart de la population des travailleurs. Et quand on parle de travailleurs, on parle bien sûr de toutes les formes de travail, pas seulement le travail dépendant formel, salarié, mais aussi le travail indépendant, informel, le travail dans l'agriculture, les populations migrantes et aussi ceux qui ont des contrats saisonniers ou à durée déterminée. Celles-ci sont les catégories des travailleurs plus souvent exclus dans la loi et dans la pratique.
Parce que, en fait, ce sont des secteurs qui sont, disons, moins sujets à réglementation.
Exactement. La loi, souvent, les exclut explicitement de la couverture, même si on trouve des exemples de pays qui les couvrent, même juridiquement. Et ça, c'est un premier pas. C'est important d'avoir déjà une reconnaissance formelle que ce type de travail demande une protection autour de l'accouchement. Donc, c'est un droit fondamental auquel tous les travailleurs, indépendamment de leur de contrat et de la forme de travail, ont droit à une protection de santé et une protection économique. Parce que même les travailleurs qui ne sont pas payés, qui sont dans l'informel, s'ils doivent s'arrêter de travailler pour prendre soin de leurs enfants et de leur propre santé, cela engage une perte de revenus.
Selon le BIT, 74 pays prévoient des prestations en espèces correspondant à au moins 2/3 des revenus pendant au moins 14 semaines. Et en fait, c'est une hausse par rapport au passé.
Oui, on a vu que même par rapport à notre dernière revue législative, cela représente une hausse parce qu'il y a une tendance générale à l'échelle internationale vers en fait des législations qui sont en ligne avec les conventions de l'Organisation internationale du travail au sujet de la protection de la maternité. Donc on voit qu'il y a un effort de reformuler les lois pour donner des congés plus longs, d'une durée plus adéquate. Et là, on est en train de parler du standard minimum de l'OIT de 14 semaines avec le paiement de 2/3 des gains antérieurs. Donc, on progresse de ce point de vue-là.
Et dites-moi, du côté de la paternité, est-ce qu'on observe des progrès ?
Tout à fait. Au niveau de la de la paternité et du congé paternité aussi, on a assisté à une progression de lois, de nombre de pays qui octroient un congé de paternité dans les derniers 20 ans. Ça représente un progrès de 20% à l'échelle internationale. Et même si on regarde que l'Afrique, ça représente une augmentation de 15%. Et on voit qu'en Afrique, déjà, il y a beaucoup de pays qui, dans leur droit du travail, ont des lois qui reconnaissent l'importance des événements familiaux dans lesquels la naissance d'un enfant. Ça réfléchit une tradition, un aspect culturel de ces pays pour lesquels on valorise beaucoup les événements communautaires et familiaux. Cela est important et nous, on a comptabilisé ces lois. Toutefois, il est important de spécifier qu'il faut des congés exprès pour la naissance d'un enfant. Parce que ces congés qu'on a comptabilisés, par exemple, beaucoup de pays africains ne sont pas exclusivement pour la naissance d'un enfant. C'est pour aussi des enterrements, des mariages, etc. Donc, il est important que des congés dédiés à cela soient aussi octroyés au père et qu'ils soient d'une durée conséquente parce qu'on voit aussi dans les pays africains qui ont cette législation que la plupart donnent des congés qui sont inférieurs à 2 semaines. Et on voit que pour que la loi ait une incidence dans la redistribution des responsabilités familiales et donc que les hommes soient plus engagés dans le soin des enfants, que ces congés soient d'une durée d'au moins 2 semaines.
Madame Laura Adati, spécialiste de la protection de la maternité à l'OIT, elle était jointe à Genève. Washington, vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Amérique et vous suivez le magazine hebdomadaire de l'économie au micro Camille Grosdidier. Toujours concernant l'Organisation internationale du travail, eh bien, elle annonçait ce mardi que dans l'économie privée, le travail forcé de quelque 21 millions de personnes à travers le monde génère 150 milliards de dollars de profits illicites par an, environ 3 fois plus que le montant estimé auparavant. Ce rapport de l'OIT intitulé « Profit et pauvreté, l'économie du travail forcé » indique que 2/3 des 150 milliards de dollars estimés proviennent de l'exploitation sexuelle à des fins commerciales, tandis que les 51 autres milliards résultent de la traite à des fins d'exploitation économique, y compris le travail domestique, l'agriculture et d'autres activités économiques. Vous suivez le magazine hebdomadaire de l'économie, ici Washington, La Voix de l'Amérique. Jamais la pêche et l'aquaculture n'ont joué un rôle si important dans l'alimentation et les revenus d'un si grand nombre de personnes, indique un nouveau rapport de la FAO. Selon la dernière édition de la situation mondiale des pêches et de l'aquaculture, en 2012, la production halieutique et aquacole s'est établie à 158 millions de tonnes, soit environ 10 millions de tonnes de plus qu'en 2010. La pisciculture offre un potentiel formidable pour répondre à la demande de nourriture associée à la croissance démographique mondiale, note Lassen Ababush, directeur de la division des politiques et de l'économie des pêches à la FAO.
Le secteur de l'aquaculture a connu une expansion pendant les 30 dernières années assez incroyable, pratiquement en moyenne 8% de croissance annuelle, ce qui en fait le secteur dont la croissance est la plus rapide pour le système de production. La production en 2012 est estimée à 90 millions de tonnes, dont 24 millions de tonnes de plantes aquatiques. En termes de nombre de personnes, environ 18 millions d'emplois directs sont fournis par le secteur, mais ceci concerne surtout la production primaire. Si on intègre les emplois au long de toute la filière, ça peut atteindre pratiquement 90 à 95 millions de tonnes dans la transformation, dans la distribution et dans le stockage. Mais ce qui est important malheureusement de signaler, c'est que l'aquaculture est très faible en Afrique. Moins de 2% de la production mondiale en Afrique. Il y a un potentiel énorme, mais il faut mettre les moyens pour pouvoir l'exploiter.
Toujours, selon la FAO, l'expansion de l'aquaculture contribue à améliorer l'alimentation de nombreuses personnes. Mais voilà, son essor durable dépend de la capacité du secteur de devenir moins dépendant à l'égard du poisson sauvage comme aliment et de se montrer plus respectueux de l'environnement. On écoute à nouveau M. Ababouche.
L'aquaculture, il faut le signaler de nouveau, c'est un système de production animale où on peut contrôler les intrants et, disons, planifier les outputs. Le secteur de la pêche, c'est un secteur de ressources naturelles où il faut surtout gérer les ressources naturelles et mettre en place les plans d'aménagement pour permettre à cette ressource naturelle de se régénérer de façon durable. Alors, malheureusement, la course effrénée vers la pêche a fait que maintenant nous avons 30% des stocks mondiaux qui sont surpêchés et qu'on devrait de façon urgente ramener à leur niveau de production optimal. Et donc, il va falloir agir au plus tôt. En même temps, malheureusement, s'est développée la pêche illégale qui concerne pratiquement 15 millions de tonnes contre laquelle il faut lutter. Pour l'aquaculture, les défis principaux, bien entendu, varient d'une région à l'autre. Presque 85% de l'aquaculture se passe en Asie. Donc il y a eu une intensification, parfois malheureusement effrénée, et avec un impact négatif sur l'environnement, sur les aspects sociaux. Donc dans ce genre de situation, c'est surtout introduire les bonnes pratiques, réglementer l'utilisation des aliments de bétail. Dans des pays comme l'Afrique, qui produit moins de 2% et dans presque la moitié en Égypte toute seule, la problématique est complètement différente. Il faut canaliser les investissements vers l'aquaculture. Le potentiel est important. Il faut que les pays préparent des stratégies et des politiques nationales d'appui, et notamment en termes de santé animale, pour s'assurer d'éviter les maladies transfrontières, réduire les risques pour attirer les investisseurs.
Monsieur Lassen Ababouche, directeur de la division des politiques et de l'économie des pêches à la FAO, au micro de Muriel Sarr de la FAO. La FAO affirme chercher à promouvoir une croissance bleue fondée sur la gestion durable et responsable des ressources aquatiques.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur une maladie qui touche de nombreuses femmes en Afrique. La fistule obstétricale, une lésion liée à l'accouchement. Celles qui en souffrent sont également victimes d'exclusion sociale, d'où la journée internationale pour l'éliminer. Avec nous sur le plateau, Khalil Gueye fera le tour de la question ce jeudi à 19h10 sur la VOA.
Camille Grodidi avec vous pour le magazine de l'économie de la Voix de l'Amérique, ici Washington. République démocratique du Congo, Nord Kivu, les taxes et redevances divisent la classe politique. La coalition des partis politiques de l'opposition accuse les institutions provinciales d'appauvrir la population en multipliant les taxes. Le point depuis Goma avec notre correspondant Primo Pascal Rudaigua.
Dans une lettre ouverte adressée à l'Assemblée provinciale et au gouvernement du Nord Kivu, sept partis politiques de l'opposition menacent d'inciter la population à la désobéissance civile. Léon Tembo de l'UNC est le porte-parole de cette coalition des partis politiques de l'opposition.
Nous parlons ici de la hausse brusque et inexplicable de prix sur le marché. Il s'agit ici de produits vivriers et de produits manufacturés. Nous avons la hausse de frais relatifs à la célébration du mariage. Mais même à ces niveaux-là, auparavant, on payait 30 dollars au service de l'État civil. Maintenant, c'est plus de 100 dollars. La coalition des partis politiques de l'opposition présents au Nord Kivu recommande à l'Assemblée provinciale et au gouvernement provincial du Nord Kivu, chacun sait qui le concerne, bien sûr, de s'impliquer activement et sans délai pour mettre fin à tous ces maux qui rongent les paisibles citoyens. En défaut de cela, notre coalition prendra acte de leur démission et lancera un appel à la désobéissance civile.
Réagissant à cette lettre, le directeur de l'inspection à la Division générale des recettes du Nord Kivu, Maître David Kamuha, s'est exprimé de cette manière.
Depuis beaucoup de temps, au Nord Kivu, la loi douanière ne s'était jamais appliquée. Tout simplement puisque nous étions dans une situation de guerre. En fait, qu'est-ce qui se passait avant? Vous savez que dans cette ville ici, même dans toute la province, il y a des gens qui s'étaient illustrés en se faisant passer comme des déclarants alors qu'ils étaient des services spécialisés. Ils venaient intimider les services de l'administration douanière pour payer ce qu'ils veulent alors qu'ils ont déjà pris l'argent du commerçant.
Saisie de ce malaise, l'Assemblée provinciale du Nord Kivu envisage de mener des enquêtes à ce sujet. Nkuba Kahombo est le porte-parole de l'organe délibérant du Nord Kivu.
Quand nous avons appris que les prix montent en flèche, nous avons dit que nous n'allons pas réagir comme des gens qui ne sont pas intelligents. Nous nous sommes d'abord posé la question de savoir que peut être à la base de cette flambée des prix. Alors nous sommes en train de recueillir des renseignements et à partir de ces données-là, quand nous serons édifiés par les uns et les autres, l'Assemblée, certainement, va prendre une position parce qu'à ce moment-là, nous aurons tous les éléments pour nous prononcer correctement.
Les opérateurs économiques ont décidé tout simplement de hausser les prix et c'est la population qui paye les conséquences. Le président des boutiquiers de Goma, Kembo Amonasi, sollicite un allègement auprès du gouvernement provincial.
La population souffre énormément. Donc la vie sociale de la population est très critique. Donc il faut que nous puissions comprendre ça. Donc les gouvernements professionnels puissent quand même essayer de revoir comment est-ce qu'on peut alléger quelques taxes et impôts.
Goma, Primo Pascal Rudahigua pour La Voix de l'Amérique.
Ici Washington, Camille Grosdidier pour le magazine de l'économie. En Côte d'Ivoire, tollé de protestations contre le péage de l'autoroute du Nord qui a démarré récemment. Les usagers et responsables des associations de consommateurs évoquent des coûts exorbitants, tandis que les membres du gouvernement estiment, eux, que ces tarifs ont été étudiés. Germaine Dry, notre correspondant à Abidjan, nous fait l'écho de l'appréciation des deux parties.
Les tarifs annoncés et mis en application pour franchir l'autoroute du Nord, longue de 224 km, sont, selon les usagers, trop élevés. Kwadio Nyangoura, chauffeur de gros camions.
C'est trop. Imagine un cas qui fait Abidjan, Yamoussoukro, qui doit aller 4 fois, ça lui fait déjà plus de 10 000. Si le gouvernement peut voir réduit au moins à 500 ou 1000 francs, je pense que tout le monde sera gagnant.
Pour Kwaku Nguessan, président de l'Union Générale des Consommateurs de Côte d'Ivoire, les autorités n'ont pas pris en compte les préoccupations des usagers de la route.
C'est pas normal de fixer le prix à ces montants-là. Je trouve que c'est trop. Ceux qui ont pensé, je pense qu'ils n'ont pas tenu compte de la bourse des consommateurs.
Quant à l'impact que ces prix pourraient avoir sur les tickets de transport, le ministre des Infrastructures économiques rassure Patrick Haché.
Ça n'aura pas vraiment d'impact ni sur les tarifs des usagers de transport, ni sur le prix des marchandises qui sont transportées.
Alors les tarifs aujourd'hui sont pratiquement les tarifs en tout cas, le benchmarking que nous avons fait indique que sont les tarifs parmi les moins chers au monde.
Germain Dry, Abidjan, La Voix de l'Amérique.
Ici Washington, vous suivez le magazine hebdomadaire de l'économie de La Voix de l'Amérique. Et pour finir, le secret bancaire n'est plus ce qu'il était et coûte aujourd'hui très cher à certaines banques qui le pratiquent. Lionel Gaïma explique.
Une très lourde amende pour Crédit Suisse qui va débourser plus de 2,5 milliards de dollars après avoir plaidé coupable de complicité d'évasion fiscale, a annoncé lundi la justice américaine. À l'issue d'une audience devant une cour fédérale de Virginie, le ministre de la Justice, Eric Holder, a fustigé le comportement du groupe bancaire qui non seulement n'a guère fait preuve d'enthousiasme pour coopérer dans l'enquête, mais aurait détruit des documents.
The bank actively helped its account holders to deceive the IRS by concealing assets.
La banque a aidé activement des titulaires des comptes à tromper le fisc, Internal Revenue Service ou IRS, en dissimulant des actifs et des revenus dans les comptes bancaires illicites non déclarés, a rappelé M. Holder en soulignant que ces pratiques remontaient à plus d'un siècle. Le ministère de la Justice a précisé que Crédit Suisse versera 715 millions de dollars dans le cadre d'un accord négocié avec les autorités du secteur des services financiers de l'État de New York. Crédit Suisse est la plus importante banque ayant accepté de plaider coupable de charges criminelles retenues contre elle depuis 20 ans, a poursuivi M. Holder. Cette affaire montre qu'aucune institution financière, quelle que soit son importance ou sa dimension mondiale, n'est au-dessus de loi, a-t-il déclaré lors d'un point de presse. Par ailleurs, le superintendant des services financiers de New York, Benjamin Lowski, a dit qu'il ne comptait pas ouvrir la procédure visant à retirer à la banque sa licence dans l'État. En France, signale l'agence Reuters, certains établissements sont confrontés aux autorités judiciaires américaines. Le Crédit Lyonnais a admis en 2004 avoir menti aux autorités des régulations lors du rachat d'un assureur californien en faillite avant d'être racheté par le Crédit Agricole. BNP Paribas est également dans le viseur du ministère américain de la Justice. La banque continuait de négocier avec les autorités américaines d'un litige portant sur des transactions en dollars et potentiellement illégales au regard du droit américain. BNP Paribas a constitué une provision de 1,1 milliard de dollars au quatrième trimestre 2013 pour ce litige, mais a prévenu le 30 avril qu'une éventuelle amende pourrait largement dépasser ce montant, précise Reuters.
Voilà, ainsi s'achève cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier, qui vous remercie de l'avoir suivi.